Le jardinage au naturel, simple et écologique.
Une journée de sensibilisation aux alternatives aux pesticides s'est déroulée récemment à la Robine-sur-Galabre, en Pays d'Innois. Directrice, coordinatrice, animatrice et formatrice de l'association À Fleur de Pierre, Christelle Ferré est intervenue avec d'autres partenaires pour sensibiliser le public et l'inviter à jardiner au naturel. Christelle Ferré au micro d'Odile Frison.
Christelle Ferré, aujourd'hui, vous intervenez à la Robine-sur-Galabre. Ça fait encore partie de vos nombreuses missions pour informer les gens, les sensibiliser à quoi ?
Au jardinage naturel, avec deux thématiques qui se croisent et qui de toute manière se complètent très bien. Comment jardiner sans utiliser de pesticides et comment réutiliser au jardin ces rémanents sans avoir ni à les brûler, ni à les jeter et au contraire en les transformant en richesse pour le sol.
Alors est-ce qu'en une séance, comme vous venez de le faire là, une mini-conférence, on peut déjà savoir comment ne pas utiliser les pesticides ?
Oui et non, je pense que c'est jamais fini de chercher. C'est une première approche, une première sensibilisation. Je m'attache beaucoup à plutôt expliquer comment ça marche plutôt que de donner des recettes, c'est-à-dire de faire comprendre, de faire partager la nécessité de la biodiversité, de l'équilibre naturel au jardin, de la vie du sol. Et à partir du moment où on prend conscience de comment ça marche, je pense qu'on est plus ouvert ensuite à aller chercher, creuser plus profondément dans les détails comment on y adapte nos pratiques.
Les pratiques connues, c'est le compost qui peut aider à faire de beaux légumes.
Le compost, oui. Donc le compost, on va dire que ça rentre dans la thématique de la fertilité, la vie du sol. Le compost va permettre d'avoir des plantes effectivement qui grandissent bien. Après, dans toute la logique de protéger les plantes des attaques, de maladies, de ravageurs qui peuvent intervenir et inciter malheureusement les jardiniers à utiliser des pesticides, on va être plutôt dans une logique plus globale sur l'environnement, sur le milieu du jardin, la biodiversité, et de comprendre le système, de privilégier un équilibre naturel dans toute la faune et la flore locale, de façon à ce que, comme toute chaîne alimentaire, si on a des pucerons, qu'on ait suffisamment de coccinelles pour les maintenir en quantité raisonnable.
Par exemple, c'est très important de savoir que planter à côté des courgettes ou des salades, parce qu'il y a tout a une importance en fait quand on commence à semer.
Oui, tout a une importance, tout dépend de la manière dont on le fait. C'est pour ça que si on comprend le système, on peut ensuite se dégager de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait un énorme carré de courgettes et à côté un énorme carré de choux, on peut avoir pas mal de problèmes parce que on fait de la monoculture, donc on puise dans le sol le même type d'éléments, on va attirer le même type de ravageurs à grande échelle. Si on mélange, si on fait une petite ligne de courgettes et puis à côté on met autre chose, voilà, plus on va être dans la diversité, plus on va être dans le mélange, moins les erreurs sont importantes.
Est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre différents légumes ? Ce serait une hérésie de planter tel légume à côté d'un autre ?
Il y a deux familles de plantes au potager qui ne s'aiment pas trop, qu'il faut éviter. C'est les plantes de la famille des liliacées, c'est-à-dire les poireaux, les oignons, l'ail, etc., qui sont des plantes très importantes. Et il vaut mieux éviter de les mettre à côté des plantes comme le haricot vert, les petits pois, les fèves, enfin ce qu'on appelait avant les légumineuses, qu'on appelle maintenant les fabacées. Voilà, ces deux familles-là, elles ne s'aiment pas trop et il vaut mieux les distancer un peu.
Qu'en est-il des fleurs de souci, des choses comme ça? Je me rappelle l'avoir vu quand vous faisiez ces cultures, des lasagne beds.
Lasagne beds, oui. Alors, il y a beaucoup de plantes maintenant dont on s'est aperçu du pouvoir protecteur. Donc on a beaucoup de plantes aromatiques qui font des odeurs fortes et qui donc du coup vont protéger les autres plantes, ne serait-ce qu'en dissimulant leurs odeurs à elles pour les prédateurs qui les recherchent. Il y a des plantes aussi qui dégagent des exudats par leurs racines et donc qui vont aussi du coup protéger de certains éléments perturbateurs. Donc le souci et l'œillet d'Inde, ils sont assez connus maintenant pour bien protéger les tomates parce qu'il peut y avoir dans le sol des petits nématodes qui vont grignoter les racines des tomates, mais qui vont pas du tout aimer la proximité des racines de tagettes, de yédins et de soucis.
Et enfin, pour éloigner les escargots de nos belles salades, est-ce qu'il y a une recette ?
Des hérissons ? C'est ça, c'est que l'origine, elle est là, c'est que plutôt que d'essayer de les éloigner, il y a des recettes, il y a des protections mécaniques, on peut mettre des petites barrières de cendres, de coquilles d'œufs, de marcs de café, des choses comme ça. Il y a même en vente des sortes de petites clôtures en plastique avec des lamelles de cuivre aussi, je crois. Enfin voilà, il peut y avoir des barrières mécaniques, mais le meilleur moyen d'avoir un jardin qui se passe bien et qui nous fatigue pas trop, c'est qu'il y ait un équilibre naturel qui se fait et qu'il y ait suffisamment autour de petites petites bêtes qui viennent les manger. Donc il y en aura toujours un petit peu, des escargots et des limaces, mais si on a un jardin qui est accueillant pour les carabes, qui sont des gros scarabées qui aiment bien manger les limaces, si on est accueillant pour les petits reptiles, pour les hérissons, eh ben la population d'escargots et de limaces sera naturellement maintenue dans des proportions acceptables, et du coup le jardinier aussi, il laisse une petite part à la nature.
Et pour terminer, vous êtes auteur d'un ou plusieurs ouvrages, lesquels ?
Un seul que j'ai, c'est une aventure à laquelle j'ai participé il y a quelques années, avec une petite maison d'édition locale qui malheureusement a fermé, c'était les éditions du Sablier Jeunesse à Fort-Calquier. Et c'est vrai que du coup j'avais été sollicitée pour une collection de livres pour enfants sur les jardins, et j'avais donc rédigé Jardin Gourmand Bio, avec une illustratrice qui avait fait des très très belles planches de dessin, je peux le dire, parce que c'était un plaisir de travailler avec elle. Et voilà, ça a été édité en 2012-2013, mais comme la maison d'édition a été malheureusement rapatriée sur Paris, je ne sais absolument pas ce qu'est devenu l'édition de ce livre. Je pense qu'on en trouve encore dans les magasins, oui. Oh, oui.